Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue aux questions de Sophie. Aujourd'hui, le 29 septembre, on se pose la question, mais pourquoi et comment retourner aux études à l'âge adulte? Alors, c'est pas toujours évident. Je l'ai fait, moi, pour ma maîtrise et vraiment, j'avais des horaires de fou, mais ça vaut la peine. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de déception, beaucoup de joie aussi d'être allé jusqu'au bout. Et puis, on n'est pas les mêmes, hein. Quand on va aux études, on dirait qu'on est plus attentif. De toute façon, on va vraiment s'occuper de cette question à fond pendant 60 minutes. On aura nos spécialistes qui viendront au fur et à mesure à ce micro. Nathalie Martin, conseillère en orientation chez Enjeux Carrière, nous parlera du pourquoi on retourne aux études. Immigration et retour aux études serait très important aussi parce qu'on sait très bien, puis ça c'est vrai, mesdames, messieurs, souvent vous prenez un taxi, vous discutez avec la personne. Elle est médecin dans son pays, puis elle est chauffeur de taxi ici. Là, c'est hallucinant, il faut que ça change. On en parlera avec Annick Lenoir, professeure adjointe au département de services sociaux de l'Université de Sherbrooke et membre du Centre d'études éthiques et des universités montréalaises. Et puis, sujet 40-50 ans, pas évident retourner aux études à cet âge-là, hein? Lucie Dubé, conseillère en orientation chez Midi 40. C'est un service de transition et de gestion de carrière spécialisé en recherche d'emploi pour les 40 ans et plus. Elle sera dans nos studios. Le retour aux études avec une limitation fonctionnelle, aussi pas facile. Beaucoup de déplacements à faire, hein, quand il faut aller écouter nos professeurs. Comment ça se passe? On aura Franck Bouchard du comité d'adaptation de la main-d'œuvre, CAMO, pour personnes handicapées. Il sera dans nos studios. Et notre coup de chapeau, eh bien, ce sera pour Paula Duguay, présidente de Maman va à l'école. C'est un organisme qui aide les mères monoparentales qui désirent retourner aux études, tout ça aux questions de Sophie. Alors, la grande question, on débute notre émission avec Nathalie Martin, conseillère en orientation chez Enjeux Carrière. Bonjour, Madame Martin.
Bonjour, Madame Stanquet.
Je dis la grande question. Pourquoi on retourne aux études?
Pourquoi on retourne aux études? On constate chez les adultes, mais les adultes, c'est pris large, hein, parce que je vous dirais que ceux qui vont avoir tendance à retourner aux adultes, on va plutôt les voir vers la fin vingtaine, début trentaine, du fait que certains ont fait des études qui leur correspondaient pas, qui ont entrepris un 2 ans, 3 ans d'expérience de travail, puis finalement, ils se rendent compte que leur discipline ne correspond pas tout à fait à leurs idéaux. Mm-hmm. Alors, certains vont retourner pour faire des cours, certains, ce sera des certificats, des DESS, une maîtrise réorientée et non en ligne avec leur formation initiale. Mm-hmm. Et il y en a certains, c'est quand même une minorité qui vont retourner faire un 3 ans complet dans des nouvelles études, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau collégial.
Alors, vous dites c'est une minorité parce que il doit y avoir aussi une clientèle de déçus au niveau du travail. Est-ce que ça arrive, par exemple, qu'on décide de s'orienter dans une carrière, de le faire pendant même 20 ans, puis se dire, bon, non, moi, je l'ai fait pendant 20 ans, je suis plus capable, j'ai pensé que j'aimais ça, mais là, je retourne aux études parce que mon plus grand rêve d'enfant, c'était, je sais pas moi, de faire de la radio ou autre chose, ou ingénieur. Est-ce qu'il y a quand même des cas de figure?
Je vous dirais que pour faire un retour aux études 20 ans plus tard et tout ça, c'est vraiment une question presque d'astre, tout bien aligné, parce que lorsqu'on est rendu dans la trentaine avancée, quarantaine, il y a beaucoup d'enjeux au niveau familial, surtout au niveau familial, qui fait que de retourner aux études 3 ans, refaire des études, implique une gestion financière totalement différente, une réadaptation de la vie familiale, le conjoint ou la conjointe qui travaille et l'autre aux études, c'est pas le même rythme de vie. Alors, je vous dirais que on va voir des personnes qui vont aller chercher une formation à temps partiel ou aller chercher un certificat ou une formation d'une année. Mm-hmm. Ça, c'est un petit peu plus courant que dans ma pratique, là, je vous dirais.
Plus que le portrait de je vous traçais, là.
Oui, oui. Il y en a certains qui le font, mais je vous dirais que c'est un contexte de vie familial. Il y a plusieurs éléments qui sont pour qui se regroupent dans un même moment qui permet ça parce que c'est pas facile au niveau financier de retourner aux études.
Non, c'est, donc, ça. Ouais, c'est ça. Bon, on pense toujours à la gratuité scolaire, on n'en est pas encore là, malheureusement, je devrais dire, parce que ça aussi, là, je veux dire, l'université, si on parle de gens qui vont à l'université en général, c'est ça, c'est des coûts, ça, qui s'ajoutent, là.
Oui, mais je vous dirais que la plus grande difficulté, c'est peut-être les coûts des études, qu'ils soient universitaires ou collégiales, c'est plutôt que durant que on fait des études, c'est plus l'aspect financier de ne pas avoir un travail à temps plein pour couvrir nos besoins courants. C'est ça la problématique parce que les études, pour la plupart des gens, c'est pas tellement les coûts rattachés aux frais scolaires qui est la problématique. C'est plus, je suis habituée de gagner un salaire de tant de milliers d'argent et là, je retourne aux études à temps plein sans aucun salaire et un travail à temps partiel. Souvent, ça amène une diminution là, de revenus à la maison, même si on prend un temps partiel. Alors, c'est plus cette question-là de comment je vais faire pour payer mon loyer, mon hypothèque, la voiture et tout ça.
Oui, parce qu'en général, là, on parle d'un certain âge aussi. Les gens se sont avancés dans la vie, ont acheté un appartement, un condo, et puis donc ils s'endettent forcément. Oui. Parlez-moi des raccrocheurs adultes. Là, on parlait des gens qui ont envie ou qui changent, qui veulent compléter, mais ceux qui, dans leur vie, pour une raison familiale ou autre, ont décidé de « bon, moi, j'irai pas au cégep, j'irai pas à l'université, ça me tente pas », et qui décident, soit dans la trentaine ou dans la quarantaine, de raccrocher. Est-ce que ça se fait encore beaucoup? Quels sont les obstacles? Est-ce qu'ils finissent par raccrocher vraiment? Ou une fois qu'ils retournent sur les bancs d'école et qu'ils voient qu'ils sont avec des gens d'une vingtaine d'années et ils ont perdu le rythme, perdu les habitudes et se découragent? Comment ça se passe en 2014 pour ces gens-là?
Je vous dirais que les raccrocheurs, lorsqu'ils décident de retourner aux études, c'est vraiment une motivation qui est intrinsèque. C'est une motivation qui, pour laquelle ils sont tellement tannés d'être dans un travail, dans des conditions aussi de travail, un salaire qui répond plus à qu'est-ce qu'ils veulent, que lorsqu'ils décident de retourner aux études, ils ont fait leur devoir en ce qui a trait la formation, les études, qu'est-ce que ça comprend et le type de travail qu'ils vont faire. Alors, je vous dirais que cet élément-là est certes un élément qui leur permet de... ils savent qu'ils retournent dans un contexte qui est très différent et le fait qu'ils sont motivés, c'est beaucoup plus facile de passer, de faire nonobstant peut-être des plus jeunes et tout ça et de rester focusé sur leur objectif de réussir pour pouvoir finalement faire qu'est-ce qu'ils veulent vraiment.
Mais c'est possible.
Oui.
En ce moment, le taux de réussite est élevé?
Excellente question. J'ai pas les statistiques devant moi par rapport à ça. Je pourrais pas vous répondre, désolée.
OK, mais les gens y vont tout de même.
Oui, je voudrais que lorsque les gens entreprennent un programme et tout ça, je vous dirais que moi, dans ma clientèle, les gens vont jusqu'à la fin, le terminent pour la majorité du temps, oui.
C'est quoi les principaux obstacles, à part l'argent et l'économie, des adultes qui décident de retourner aux études?
C'est beaucoup moi dans ma clientèle, c'est beaucoup l'aspect du revenu, la perte du revenu qu'ils ont actuellement. Le sentiment aussi de retourner aux études et le sentiment de lorsqu'ils auront terminé, ils vont être considérés comme des juniors, comme des débutants. Alors, cette perception, cette croyance-là, c'est sûr, c'est des éléments qu'on doit travailler avec eux parce que c'est seulement une perception. Ils ont tout un bagage qui est additionnel avec l'étude qu'ils sont en train de faire. Vraiment, l'obstacle majeur est l'aspect comment je vais faire pour m'arranger pour être en moyen de payer mon hypothèque, l'épicerie, etc., tout en faisant mon étude. Et pour certaines, c'est aussi comment on va faire en sorte avec la famille, lorsqu'on est aux études, Moi, je dis toujours qu'être aux études, c'est du temps plein. Le jour, on est à l'école. Le soir, on a les travaux. Les week-ends, c'est encore les travaux, les études. Alors,
complètement.
On est absorbé, on est imbibé pendant minimum, si la formation est un an, si elle est trois ans, c'est trois ans de temps de cette recette-là. Alors, je vous dirais que ça a un impact direct sur la famille, sur le conjoint, sur les enfants. Alors, ça demande une réorganisation, ça demande des discussions familiales pour voir de quelle manière la famille va composer avec le membre, que ce soit l'homme ou la femme là, qui décide de retourner aux études.
Mais en même temps, il y a un grand bonheur de retourner. Vous avez une animatrice qui est pour les études. Moi, je suis jeune. Je suis toujours...
Mais je vous dirais que
il y a un grand bonheur, une satisfaction, mais un bonheur d'apprendre et de retourner puis se dire, ben, je vais faire ce que j'aime et j'aurai le diplôme qui va être au bout. Ça, c'est extraordinaire. Pour ceux, surtout, qui n'ont pas eu la chance de terminer, de se dire, bon, ben, ça y est, je vais pouvoir terminer. Dites-moi.
Je vous dirais aussi que souvent, quand ça pèse dans la famille, dans le couple depuis quelques années, je vous dirais que souvent, le conjoint et la conjointe sont très supportantes dans la décision. Mmh. Et ça, c'est quelque chose là, qui est porteur là, pour la réussite et tout ça. Mais ça c'est un constat là, de voir sa demi à côté qui n'est pas heureuse, qui développe plein de problèmes personnels, des maladies, etc. Le conjoint, la conjointe ont tendance à encourager et revoir les finances.
C'est une bonne idée. En terminant, les employeurs, leur réaction, quand les gens qui travaillent, parce que ces gens-là continuent, on parle des raccrocheurs qui ont forcément un travail, mais quand ils doivent diminuer les heures pour aller sur les bancs d'école, est-ce que ça se passe bien, ça, ou en général?
Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des secteurs d'activité pour lesquels c'est très difficile de pouvoir changer son horaire. Mmh. Alors, je vous dirais qu'il y en a qui sont confrontés au fait qu'ils doivent demander un temps partiel. Il y en a d'autres qui doivent quitter carrément leur travail parce que c'est difficile de composer.
Malheureusement.
Oui, absolument. Mmh.
Merci beaucoup, Madame Martin.
Ça fait plaisir.
Merci.
Bonne journée.
Vous aussi. Alors, vous avez été nombreux à nous écrire. Puis, en studio, on a Claudia Benoît qui s'occupe vraiment de vous lire. Elle est là, elle attend pendant l'heure. Canal M, vous avez des commentaires. Alors, je vais essayer de tous les dire. Ça sera peut-être pas facile aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Mais je tiens à vous lire absolument. Pierre E. Lavoie dit avoir un objectif précis à coupler de détermination. Bon lundi. Anne-Marie Toin, j'attends la gratuité scolaire pour y retourner, vous voyez. Ensuite, difficile, Martin Papineau qui dit difficile d'Emploi Québec n'être pas un travailleur au salaire minimum à s'instruire et le temps partiel, on en parlait justement, est rarement possible au travail. Vous voyez? Comme agent d'aide à l'emploi, à l'Emploi Québec, j'ai autorisé maint travailleur à cesser le travail pour l'école. Ça, c'est S. Wallet. Martin Papineau poursuit. Vous n'êtes pas de Rosemont. Il y a des quotas dans ce quartier. Plusieurs se font refuser une technique plus lucrative. Bertrand Dugré dit « L'éducation devrait être un processus continu. Tout évolue tellement vite qu'on ne peut rester à niveau. » Toute une vie et à repenser. Et puis PM Savard dit idem en parlant de la gratuité. Dans mon cas, je n'ai pas les moyens car je n'ai pas fini de payer ma dette et de mon ancienne école de 3D. Ah oui, ça, les dettes, les études, ça va ensemble. Faut aussi dire que, ça c'est mon commentaire, c'est pas monsieur Savard. Faut aussi dire que j'ai mes erreurs de jeunesse émotives, alors c'est pour ça, c'est pas uniquement la faute au système, ça c'est PM Savard qui poursuit. Et puis Anne-Marie Toin dit, ça m'a pris une éternité à consolider et si c'était à refaire, je le referais pas, je ferais une technique. Vous voyez, c'est intéressant, là-dessus on va y aller, on va parler. Alors je vous en laisse pour un petit peu plus tard parce qu'on a notre prochain invité.
Appris à écrire, c'est que j'ai souvent lu dans les feuilles de chêne et les plumes de pin. Si je sais parler aux belles, c'est que je sais bien comment font les tourterelles et les chauds lapins. Dans le trou de ma guitare, y a comme un roseau. Dans le fond de mes sabots, y a comme un renard. Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que que la liberté, c'est de cracher dans la rivière ou dans le sentier. Ce peu que j'ai fait mes classes sur un églantier, que j'oublie ou que je ne sache pas très bien compter. Mais je sais tendre d'oreilles et je sais rêver, comme rêvent les corneilles et les peupliers. Si je sais plier bagage quand il en est un, c'est qu'avec les oies sauvages j'ai frayé longtemps. Mais de mes années d'école je n'ai rien gardé, ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est de cracher dans la rivière ou dans les sentiers. Si je chante bleu et rose, c'est que j'ai appris d'un rossignol pomme rose qui était mon ami. Si je sais lécher en outre, je sais mordre aussi, je l'ai appris d'une loutre et d'un saumon gris. Dans le trou de ma guitare, il y a comme un agneau. Dans le fond de mes sabots, il y a comme un renard. Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est de cracher dans la rivière ou dans le sentier. Quand j'aurai tenu parole et bien gagné ma vie, quand j'aurai mis pauvre école à pauvre profit, j'apprendrai d'un solitaire à vivre caché et d'un loup quinquagénaire à me taire.
Jean-Pierre Ferland, mes années d'école, on poursuit. L'émission est toujours « Pourquoi et comment retourner aux études à l'âge adulte ?» Important volet, puisque ce sera l'immigration et le retour aux études. J'en parlais en début d'émission parce qu'à chaque fois, on est complètement estomaqué de voir combien d'immigrants sont, je veux pas dénigrer la profession, mesdames, messieurs, mais qui sont chauffeurs de taxi, sont ingénieurs dans leur pays, et puis médecins. À chaque fois, c'est des conversations longues que j'ai avec ces gens-là, puis je leur dis, mais vous voudriez pas soigner des gens? Ils disent, oui, moi, je veux bien, Madame Stanquet, mais je n'y arrive pas. Et c'est le lot, malheureusement, de plusieurs personnes. Il faudrait voir le politique là-dessus, hein, la reconnaissance des diplômes. On en parle tout de suite avec Annick Lenoir, professeure adjoint au département de services sociaux de l'Université de Sherbrooke et membre du Centre d'études d'éthique des universités montréalaises. Bonjour, Madame Lenoir.
Bonjour.
Alors, quand je vous dis que je suis, comme plusieurs, estomaquée de voir il y a tant d'immigrants qui n'ont pas, qui ne pratiquent pas leur métier une fois qu'ils ont fait les premiers pas dans leur terre d'adoption, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au moment de la sélection même de l'immigration, il y a un problème. C'est qu'on fait venir des gens de l'étranger sur la base d'une grille de sélection qui, notamment, donne des points pour les études réalisées. Donc, plus on a des études, plus, évidemment, on a de points, plus on a de chances de venir au Québec. Et le problème, c'est qu'ici, généralement, le diplôme n'est pas reconnu, ou en tout cas, il est reconnu à la baisse par le ministère de l'Éducation lorsque l'on fait les équivalences. Par exemple, un ingénieur qui a fait 4 ans dans son pays ne pourrait se voir reconnaître qu'une année d'études universitaires. Il y a le problème des ordres professionnels qui ne reconnaissent pas les diplômes obtenus à l'étranger. Il faut repasser un examen ici pour pouvoir être admis dans l'ordre. Évidemment, c'est un examen qui est conçu pour des Québécois, donc avec des questions qui sont parfois orientées culturellement.
Oui, c'est ça, qui peut être parfois difficile là, au niveau de la culture.
Effectivement. Oui, oui. Et il y a aussi le problème des employeurs qui exigent l'expérience québécoise pour embaucher justement ces immigrants.
Donc ça fait beaucoup, hein?
Ça fait beaucoup. Et évidemment, ces derniers se retrouvent avec différentes options qui sont soit évidemment restés sur le bien-être social, soit accepter un emploi déqualifiant, donc qui n'est absolument pas dans leur champ de compétences,
mm-hmm.
ou alors accepter un emploi qui est déqualifiant, mais dans leur champ de compétences.
Bon. Je pense aussi à certains médecins français.
Oui.
Qui arrivent ici, qui sont médecins, et Dieu sait qu'on a besoin de médecins au Québec, hein, on nous le dit chaque jour, les listes d'attente sont là pour le prouver,
mm-hmm.
arrivent et on leur dit, ben voilà, vous ne pouvez pas exercer à Montréal parce qu'on ne reconnaît pas votre diplôme, alors ils passent un examen, ça ne fonctionne pas, donc ces gens-là aussi sont obligés de retourner aux études, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le problème des médecins, c'est un problème particulier parce que, à ma connaissance, c'est pratiquement impossible de recommencer ses études de médecine.
Ah.
Parce que les programmes sont vraiment contingentés. Donc, il y a des métiers comme ça ou des professions où on ne peut pas retourner aux études dans son métier. Donc, ce que ça fait, c'est que les immigrants, et il faut aussi savoir que ces immigrants qui sont extrêmement bien formés,
mm-hmm.
évidemment, valorisent beaucoup les études.
Mm-hmm.
Donc, lorsqu'ils se retrouvent devant ces portes fermées, mm-hmm. si on veut,
mm-hmm.
Vont retourner aux études, mais c'est un choix qui leur apparaît logique,
mm-hmm.
parce que le retour aux études va servir soit, quand c'est possible, à obtenir les cours qui manquent pour se voir reconnaître le diplôme obtenu à l'étranger,
mm-hmm.
soit, dans le cas, par exemple, d'un médecin, de se réorienter en carrière, par exemple, faire des études d'infirmier pour okay. pouvoir exercer dans une profession similaire, ou encore tout simplement poursuivre des études. Par exemple, quelqu'un qui avait un baccalauréat dans son pays, voit son baccalauréat reconnu par les universités québécoises,
oui.
à la condition qu'ils s'inscrivent au programme de maîtrise.
OK. Alors, donc, on les renvoie finalement aux études, mais c'est un petit peu moins pire que le cas du médecin, où là, il devrait ou elle devrait faire encore 7 ans d'études. C'est-à-dire que quand même, quand t'arrives à la maîtrise, c'est plus rapide, et là, il y a plus de possibilités.
Mais c'est qu'en fait, il y a plus de possibilités. C'est qu'il y a la possibilité, effectivement, de continuer ses études,
mm-hmm.
mais il faut savoir que plus on étudie, plus corollairement, on se ferme des portes en emploi.
Mm. C'est fou,
parce
hein?
Parce que, oui, mais parce qu'en fait, on s'ouvre des portes sur des emplois très qualifiés,
mm-hmm.
mais on s'enferme sur d'autres, évidemment, qui sont moins qualifiés.
Alors, d'où la déception et d'où l'incompréhension de voir ces gens-là hyper diplômés où ils font leur métier dans leur pays, ils arrivent ici, il y a quand même des choix assez difficiles. C'est 7 ans pour les médecins, pour d'autres professions c'est moins long, mais quand même il faut qu'ils pensaient pas à ça quand ils ont traversé, comme on dit.
Non, effectivement, parce que c'est pas ce qu'on leur vend à l'étranger. À l'étranger, ce qu'on leur dit la manière dont on leur dit, c'est que ça porte à croire qu'une fois arrivés ici, ils auront de la facilité à se trouver un emploi en lien avec leur profession ou leur métier. Parce qu'effectivement, comme je vous dis, on les sélectionne aussi pour leur diplôme, mais aussi pour le champ d'études dans mm-hmm. lequel ils ont fait effectivement leurs études. Donc, si par exemple, ici, on manque d'électriciens et qu'on est un électricien à l'étranger, ça nous donne des points.
Bon.
Mais évidemment, le système électrique n'est pas le même, donc on n'est pas reconnu ici par les ordres professionnels. Il faut recommencer ses études. Et effectivement, ce n'est pas quelque chose qui était envisagé lorsqu'on a pris la décision de migrer.
Alors, combien, je ne vais pas vous demander, elle est dans les statistiques, mais combien réalisent leur rêve réel de venir à l'étranger, de faire leur profession? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui finalement ils sont déçus, c'est des rêves brisés?
Généralement, ce sont des rêves brisés. La plupart du temps, ce sont des rêves brisés. Ceci dit, il y a quand même un certain nombre de personnes qui profitent de l'immigration, comme je disais tout à l'heure, pour se réorienter et qui, du coup, avec le recul, disent « mais finalement, j'aurais jamais pu faire ça dans mon pays » et sont tout à fait heureux du métier qu'ils exercent aujourd'hui.
Bon.
Donc, tout n'est pas complètement noir.
Alors, une fois que ceux qui sont restés sont téméraires, ils se sont réorientés, ont une autre formation, est-ce qu'ils ont quand même toutefois des chances de travailler? Est-ce qu'il y a des belles réussites à ce niveau-là?
Oui, il y en a. Il y en a parce que, en fait, les programmes d'études ici, comment je pourrais dire, Le fait d'avoir un diplôme québécois incite les employeurs à avoir plus confiance dans le futur employé parce qu'il se dit, voilà, il a étudié ici, il connaît déjà la culture de l'entreprise québécoise, il sait déjà comment fonctionner. Donc, c'est quand même un peu plus facile de se trouver un emploi. Par contre, là où il peut y avoir des obstacles, c'est que qui dit retour aux études dit temps qui passe. Mmh. Et ça veut dire aussi, évidemment, des personnes qui avancent en âge. Et plus on avance en âge, plus ça devient compliqué de se trouver un emploi. Je pense aux gens de 40-44 ans, par exemple. Pour eux, ça devient un double handicap.
Mmh. C'est-à-dire, il y a l'âge, il y a le temps qui passe, malheureusement. Et puis, c'est pas évident non plus à ces âges-là de retourner aux études.
Non, effectivement. Surtout qu'on est aux études avec des jeunes de 20 ans, de 21 ans.
Mm-hmm.
Il y a le fait que souvent, les immigrants qui viennent ici sont souvent des parents de jeunes enfants. Donc, il faut qu'un des conjoints décide, entre guillemets, de se sacrifier et d'accepter des petits boulots pendant que l'autre, effectivement, est aux études. Donc, ça veut dire une vie de pauvreté, de précarité pendant quand même plusieurs années.
Oui. Et tout ça n'aurait pas pu se dire avant à l'immigration, dire voilà, si par exemple vous venez au Québec et que vous êtes ingénieur, il n'y aura pas de reconnaissance de diplôme. Ça ne se dit pas avant d'embarquer dans l'avion. Il n'y a pas à ce niveau-là aucune information?
Ben, en fait, ça dépend des personnes à qui on s'adresse.
Mm-hmm.
Le ministère de l'Immigration vous dirait que oui, on le dit.
Bon.
Ceci dit, c'est à la discrétion de l'agent à l'étranger.
OK.
Donc, selon les immigrants que moi j'ai rencontrés, eux me disent non, on ne nous l'a pas dit. Donc, peut-être qu'on l'a dit et qu'ils n'ont pas voulu l'entendre, c'est mm-hmm. possible. Peut-être que ça n'a pas été dit. Peut-être que ça a été dit, mais pas de manière aussi claire.
Oui.
Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faudrait aller vérifier sur le terrain pour être certaine de bien comprendre ce qui se passe avant même l'immigration.
Et dernière question, non la moindre, est-ce qu'on n'est pas un peu sévère dans notre connaissance de diplôme? Est-ce qu'on n'écarte pas tous les gens qui auraient beaucoup de potentiel en disant, ben voilà, c'est pas la même chose dans son pays que le mien?
En fait, là, je vais vous parler sur un plan tout à fait personnel. Il me semble que oui, peut-être qu'effectivement qu'on fait les équivalences, qu'on est un peu dur envers ce qui se passe à l'étranger, mm-hmm. les diplômes acquis à l'étranger. Ceci dit, je ne suis pas du tout une spécialiste des questions d'équivalence, donc c'est difficile pour moi de
Merci.
M'avancer davantage.
Merci, Madame Lenoir. Merci
de
beaucoup.
Rien, ça fait plaisir. Au revoir.
Écoutez les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Question de Sophie aujourd'hui, 29 septembre. Pourquoi et comment retourner aux études à l'âge adulte? On se la pose tous. Que du bonheur, par contre, je dirais, moi, pour l'avoir fait pour ma maîtrise. Puis j'ai un doctorat dans les cartons, comme on dit, qui est là. Donc, c'est notre section très, très importante parce que, oui, on se pose la question, ben, à 40 ans, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Pour nous en parler, Madame Lucie Dubé de Midi 40, un service de transition. Elle travaille là-dedans, transition et gestion de carrière, spécialisée en recherche d'emploi pour les 40 ans et plus. Bonjour, Madame Dubé.
Bien le bonjour.
Alors, je dis du bonheur parce que je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est pas évident. Vous suivez ces gens-là au quotidien. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est agréable de le faire? Est-ce que c'est un pas qu'on devrait faire tous à l'âge de 40 ans?
Je crois que c'est faisable. On a plusieurs personnes qui le font, qui font le pas. Cependant, j'aurais quelques conseils peut-être à donner mm-hmm. aux personnes qui voudraient faire une transition à 40, à 50 ans, à 60 ans. Je crois que parce qu'ici, on parle de retour aux études, mais souvent, ça va être lors d'une perte d'emploi parce que nous, on reçoit les gens lorsqu'ils perdent leur emploi.
C'est ça.
Alors, lors d'une perte d'emploi, c'est l'occasion, effectivement, de revisiter
De brasser la cabane, comme on dit.
De brasser la cabane, c'est très
bien. Parce que ça brasse dans la cabane. Quand on n'a plus de travail, oui. Ça brasse en maudit.
Oui, ouais, puis ouais, c'est un choc ouais. au départ. Ouais. Et la personne, en fait, doit vivre un deuil par rapport à sa position professionnelle qu'elle vient de laisser mm-hmm. ou que l'employeur s'est départi d'elle. Alors, c'est vraiment l'occasion, je dirais, de... Nous, ce qu'on fait, c'est des bilans. On fait un bilan de carrière, un bilan professionnel avec la personne. Avant de décider quoi que ce soit, c'est important de revoir nos choix. C'est important de revoir nos priorités, de faire un bilan sur... de nommer nos compétences aujourd'hui et quelles sont nos compétences préférées et qu'est-ce qu'on veut faire avec. L'option de changer d'emploi peut être une option. L'option de retour aux études est aussi une option. Cependant, je dirais que se réorienter à 50 ans ou se réorienter à 30 ans, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la...
Non,
l'horizon n'est pas le même.
Donc, c'est plus difficile. J'en profitais pour vous lire. Je reçois beaucoup de tweets sur notre question de Sophie. J'adore ça, mais pas seulement parce que les gens sont à l'écoute, mais c'est parce que ça nous nourrit. Il y a Ginette Léger qui dit « Bonne émission. Oui, je recommencerai ce processus. D'ailleurs, je prévois le faire. J'en suis à me renseigner sur les coûts. » J'ai aussi Lucie qui est retournée aux études à l'âge de 55 ans pour être traductrice. Donc, il y a beaucoup de gens qui... C'est vrai, là. À 50 ans, il y a beaucoup de monde qui retourne, qui se pose des questions, qui vont écouter l'émission, qui vont dire, ben oui, je suis obligée, soit dans l'obligation ou une réorientation carrément de carrière. Mais l'obligation, c'est dû à la perte d'emploi. Et vous dites, c'est pas la même chose qu'à 30 ans. Quelles sont les difficultés à 50 ans, par exemple? Ces gens-là qui viennent m'écrire, et ça, c'est du concret, là.
Je dirais qu'à 30 ans, on a plus de temps devant soi. À 50, on en a moins. L'horizon professionnel, même si maintenant on va prendre la retraite beaucoup plus tard qu'on prenait avant, je pense qu'on va travailler plus longtemps que ce qui nous était promis de partir à 55 ans.
Ouais, ça, c'est faux, ça.
Et
c'est
demain,
la publicité, la
oui,
fausse publicité.
Oui, c'est ça. On est rendu là, puis on voit bien que c'est pour une très, très petite portion de personnes. Mais quand même, à 50 ans, le temps est plus limité. On cherche à travailler plus dans nos compétences préférées. La transition puis la réorientation se fait plus à partir, je dirais, de ces compétences transférables. Mm-hmm. Il y avait une de vos invitées, Mme Martin, tout à l'heure, qui disait que à cause de nos obligations...
Ouais.
On a une maison à payer, on a des enfants, mm-hmm. soit encore aux études. Donc, le choix d'aller faire un vrai retour aux études à temps plein, nous, c'est pas ce qu'on voit dans nos... C'est pas ce qu'on voit. On a quand même 500 clients par année. Une petite portion le font. Cependant, on va aller mettre à jour ses compétences, on va changer de secteur d'activité, on va procéder à un transfert de compétences mm-hmm. vers un autre métier. Le bilan sert à ça. Faire un bilan professionnel, c'est se re-questionner sur c'est quoi mes rêves, moi, que j'avais, que mm-hmm. j'ai pas réalisé. J'ai 50 ans, j'ai 45 ans, j'ai 55 ans. Comment je veux vivre le reste de ma vie professionnelle? Parce que c'est important, on veut avoir du plaisir à travailler. Et ça, je dirais que c'est le cœur de la motivation. On veut continuer à aimer ce qu'on fait. Et souvent, le changement va se faire à ce niveau-là, mais pas nécessairement un changement drastique. Souvent, ça va être changement de compétences, transition mm-hmm. vers un autre type d'emploi, mais avec les compétences qu'on a déjà exercées, qu'on a déjà mis à profit dans le métier où on faisait. Mais c'est
Alors
souvent
c'est,
l'occasion.
C'est pas le 4 ans, c'est une formation... pour compléter une formation ou s'orienter, mais ce n'est pas le fameux 4 ans d'études, là, en général, c'est ça?
Pas nécessairement. Ouais. Ça peut être une formation d'appoint. Ça peut être ce qu'on encourage les gens à faire, les gens qui veulent vraiment changer de métier, retourner mm-hmm. aux études. Moi, je me dis, si vous voulez, par exemple, aller comme traductrice, Essayez de voir dans votre entourage qui fait ce métier-là ou qui connaît quelqu'un qui fait ce métier-là et allez parler avec elle. Allez voir dans son milieu de travail qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait, est-ce que ça nous plaît. Si vous êtes une personne plus extravertie, plus qui aime rencontrer des gens, le travail de traducteur est un travail plus vraiment seul. On travaille seul.
Un travail de moine.
On voit moins de gens.
Oui,
on est,
comme les
donc,
auteurs.
Donc, il faut aller... il faut aller vraiment voir dans la réalité avant d'entreprendre des études parce que après avoir été rencontrer des gens qui le font, parfois on se dit finalement c'est pas tout à fait ça. Peut-être que je pourrais aller dans un autre créneau, mais je pense que ça me convient pas tout à fait parce que c'est triste d'aller faire des études et après se rendre compte sur le marché du travail. Finalement, je n'aime pas ça.
Mais il y a aussi une remise en question qui est très, très importante, c'est-à-dire on se cherche aussi, même si ce n'est pas la crise d'adolescence. Là. Je veux dire, à 40 ans, on commence, il y a une espèce de crise d'adolescence aussi à l'âge adulte où finalement, soit c'est l'employeur qui nous a montré la porte et qui donne une occasion de se renouveler, de repartir sur une autre base, mais... Est-ce qu'il vous arrive parfois que quand vous rencontrez des gens, vous dites, bon, mais écoutez, je pense que là, c'est beau, là, mais ça ne sera pas pour vous. Vous allez être déçus ou ça prend trop de temps ou dans ce domaine-là, il n'y a vraiment pas de débouché. Parce que vous devez le dire, j'imagine, quand vous orientez les gens.
C'est-à-dire qu'on ne le dit peut-être pas tout à fait de cette manière-là. Nous, notre rôle, c'est de vraiment décrire à la personne le type de travail. Et on voit la personnalité, on leur fait passer des tests psychométriques, on voit la personnalité des gens, sa personnalité au travail, on voit ses compétences et on essaie de l'amener dans un champ de compétences où elle va avoir du bonheur. Parce qu'en fait, on peut être très performant sur le marché du travail dans nos compétences dans lesquelles on est bon. Si... l'exemple que je vous donnais tantôt, si je fais un travail, je suis quelqu'un de très relationnel, puis je m'en vais dans un travail de comptabilité où je vais être seule dans mon bureau toute la journée, peut-être que ça sera peut-être pas une bonne idée. dans le fond, on essaie de faire transiter les gens vers des professions où elles auront du bonheur à poursuivre et où elles vont vivre des compétences.
Alors, je veux pas de chiffres, mais je veux quand même que vous me disiez en ce moment comment on est au Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup... Vous avez beaucoup de clientèle, vous avez beaucoup de gens de 40-50 ans qui décident de retourner aux études?
Un vrai retour aux études, par exemple, de dire « change complètement de métier », une très faible... Parfois, ils arrivent avec cette intention-là, mais en faisant le bilan, en se posant des questions, en revoyant leurs priorités. Et nous, on essaie de voir avec eux un projet d'emploi vraiment réaliste et réalisable. Alors, c'est eux qui le décident. Mais je vous dirais qu'après 55 ans, il y a une portion qui vont... surtout ceux qui ont rêvé d'être travailleurs autonomes, de partir leur propre entreprise, de dire, moi, j'ai toujours eu l'intention de... Là, à ce moment-là, quand on regarde le projet, c'est réaliste, on va leur donner des outils pour qu'ils puissent aller plus loin, puis vraiment aller faire leur vérification pour aller plus loin, parce que c'est important l'exploration.
Ouais.
Quand on part notre emploi, d'aller explorer mes possibilités, puis après, je suis plus en mesure de rechoisir.
Au début, j'imagine que quand ils perdent, c'est normal, il y a comme un découragement, puis après, ils voient la lumière au bout du tunnel?
Bien sûr, parce qu'au début, c'est sûr qu'on se sent victime, mais on a deux choix, en fait. Soit qu'on est victime ou on reste dans cet état-là, où on se dit, bien, comment je peux profiter de cette opportunité de revoir ma vie professionnelle et peut-être de rechoisir quelque chose qui va plus correspondre à mes besoins aujourd'hui, en ce moment présent. Parce que on travaille au centre-ville de Montréal. Il y a des gens qui disent, moi, je ne veux plus voyager. Je veux travailler plus près. Ouais. Je veux peut-être moins de salaire, mais une qualité de vie meilleure. Je pense que la qualité de vie, à un moment donné, ça devient une priorité.
Mais est-ce qu'à ces âges-là, on se dit, c'est plus ce qu'on ne veut pas que ce qu'on veut?
Oui, on commence par ce qu'on ne veut pas. Et après, on rechoisit ce qu'on veut. Mais vraiment, on a beaucoup de plaisir à travailler avec les gens de 45 ans et plus.
Merci beaucoup, Madame Dupé.
Ça m'a fait plaisir.
Merci.
Merci.
Alors, toujours dans notre 60 minutes de spécialiste, je suis très contente d'avoir des gens en studio, ça donne une belle énergie. Et donc, il s'est déplacé, je ne dis pas, c'est pareil, parce qu'au téléphone, c'est aussi bon, mais en studio, c'est encore meilleur. Alors, c'est Franck Bouchard, il est du comité d'adaptation de la main-d'œuvre du CAMU pour personnes handicapées. On est vraiment rendu à la section Le retour aux études avec une limitation fonctionnelle. Bonjour, Monsieur Bouchard.
Bonjour, Madame Sankey.
Alors, on a vu au début d'émission que ce n'est pas facile. Là, on vient de traiter les 40-50 ans. Ce n'est pas évident, le retour aux études, pour raccrocher. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a une limitation et on décide de retourner aux études?
Bien, souvent, j'imagine, la motivation première des personnes qui sont handicapées, qui ont des limitations, retourner aux études, c'est d'améliorer peut-être leur sort. On voit souvent que c'est des personnes qui sont peut-être genre à l'aide sociale et bon, elles sont peut-être là depuis quelques années, elles ont des revenus, mais elles ne se sentent peut-être pas nécessairement à la fois sentiment d'être plus ou moins utile, donc désir de faire quelque chose, d'aller vers, de donner quelque chose au niveau de la société, d'intégrer le travail et évidemment d'améliorer leur sort au niveau économique, ce faisant donc allant chercher un emploi qui va leur permettre de sortir de l'aide sociale, d'améliorer leur sort. Donc là, c'est peut-être la motivation qui peuvent les entretenir, mais en même temps cette motivation-là, elle peut être aussi contrecarrée par le fait que bon, je souhaite aller travailler, mais est-ce qu'il y aura de la place pour moi sur le marché de l'emploi? Parce que si limitations, disons oui. les vraies choses, c'est pas toujours évident que les employeurs vont vouloir nous faire une place. Quoique, si on va au retour aux études, on acquiert des compétences qu'on n'avait pas et qui vont permettre d'offrir davantage à un employeur. Bon, j'ai un diplôme, j'ai des compétences à mettre à profit. C'est sûr que ça donne davantage de chances de son côté. Mais il n'en demeure pas moins que les employeurs, il y a encore du travail à faire pour ouvrir les portes des entreprises, pour permettre aux personnes handicapées de se trouver de l'emploi, de mettre à profit ces compétences-là qu'elles vont chercher. Donc ça, ça peut faire partie du questionnement que la personne peut avoir si elle désire faire un retour aux études. Est-ce qu'il y aura une place pour moi sur le marché du travail? Deuxièmement, ben c'est un saut aussi dans l'inconnu, dans le sens où si elles sont à l'aide sociale, elles ont un revenu garanti, même s'il est plutôt minime, on n'est pas très riche. Mais bon, il y a toujours vaut mieux un tien que deux, tu l'auras, comme on dit. Mm-hmm.
Donc, il y a une espèce de sécurité, même si c'est pas beaucoup, là, on en s'entend. Il y a une sécurité financière à ce niveau-là, donc il faut jongler avec ça.
Effectivement. Est-ce que le choix de retourner aux études va me permettre d'améliorer vraiment mon sort? Et deuxièmement aussi, le fait que si je retourne aux études, est-ce que je vais devoir quitter l'aide sociale? Si je m'inscris en formation universitaire, collégiale, est-ce que je vais aller faire des demandes au niveau de l'aide financière aux études? Bon, on va peut-être me donner un soutien financier, mais ça sera peut-être pas suffisant pour combler mes besoins, pour combler ce que j'ai. Donc, il y a aussi cet aspect-là.
Et qu'en est-il? Est-ce que la personne est obligée de se retirer de l'aide sociale?
Ben, ça peut dépendre. Il y a toutes sortes de cas de figure possibles. Si la personne est autorisée, si c'est une personne qui est à l'aide sociale, bon, avec Emploi Québec, elle peut être autorisée à aller faire de la formation. Mm-hmm. On parle plus de formation pour peut-être compléter un secondaire 5, une formation professionnelle, peut-être une technique au collégial. Donc, ça, c'est une avenue. Il y a aussi d'autres avenues possibles, toujours avec le ministère de l'Emploi, qui est offert sur des programmes qui permettent aux personnes de demeurer à la fois sur l'aide sociale et d'avoir un soutien aussi de l'aide financière aux études pour aller faire des études toujours peut-être plus avancées, collégiales, universitaires. Donc, il y a quand même des avenues, mais ce n'est pas nécessairement garanti qu'Emploi Québec ou le ministère va vous autoriser à participer à ce type de programme-là. Okay. Donc, il y a quand même aussi toutes sortes de choses à jongler pour les personnes, à dire, bon, si je fais ce choix-là de retourner aux études, est-ce que je vais avoir un soutien ou non financier qui va me permettre de le faire?
Bon, il y a des gens qui ont eu des limitations fonctionnelles à la naissance, et puis bon, c'est comme ça. Mais il y a d'autres cas de figure où, suite à un accident, la personne n'a plus l'usage de ses jambes. Donc là, la vie change, le temps passe aussi, parce qu'avant de penser de grandir intellectuellement, il faut s'occuper de ce corps qui n'est plus celui qu'il était. Et donc les années passent. Et il y a une double difficulté, je veux dire, déjà retrouver un corps qui n'est plus le sien en chaise roulante, les hôpitaux, les nombreuses opérations, il y a le temps qui passe, les études prennent le bord, c'est difficile. Est-ce que ça joue parce que le temps avance, dépendamment de ce que les gens ont eu? J'imagine qu'il y a une période de découragement, puis se dire, bon, ça passe en dernier. Est-ce que souvent les gens arrêtent d'étudier quand
non, effectivement, ça peut être effectivement une raison de décrocher, si on peut dire, d'arrêter des études, parce que c'est trop difficile, c'est trop demandant. Comme vous dites, bon, toute l'hospitalisation, tout ça? Est-ce que ça fait que le projet d'études est mis de côté parce qu'on s'occupe de soi? Mm-hmm. Et après un certain nombre d'années, est-ce qu'on a envie de retourner aux études c'est dans ça. Ce contexte-là? Ouais. Et, bon, il faut se remotiver, il faut trouver une motivation. Peut-être faire un deuil aussi de ce qu'on voulait faire peut-être au départ en termes c'est d'études ça. Parce que ça correspond, notre condition ne permet plus de mm-hmm. faire, peut-être pas de faire les études, mais dire ces études-là, le but, c'était de faire un travail X. Est-ce que là, c'est plus est-ce possible à cause de... Mais c'est, ça convient, tu, est-ce que ça c'est convient ça. Encore? Donc, il y a tout un deuil à faire et de se dire, bon, est-ce que je, dans quoi je vais m'orienter, dans quoi je vais aller? Et ça aussi, c'est pour n'importe quelle personne même.
Oui.
Elle va toujours... Ça ajoute une difficulté supplémentaire. Dans quoi je vais m'orienter aussi par rapport à ma condition, mes capacités? Est-ce que je vais être capable de faire le travail? Est-ce que je vais être capable de faire les études? Est-ce que je vais être capable de faire le travail par la suite? Parce que l'idée de faire les études, bon, disons, pour la plupart des personnes, c'est d'accéder à de l'emploi, ben se réaliser oui. professionnellement.
Tout à fait.
Donc, c'est pas juste pour le plaisir de faire des études, simplement. Bon, pour certaines personnes, ça peut être ça, mais ils vont se réaliser juste à faire ça. Mais disons, pour une majorité d'entre nous, qu'on soit ou non handicapé, c'est de l'idée d'accéder à de l'emploi par la suite.
Alors, comment on est au niveau de l'accessibilité? Moi, j'ai vu quelques cas de figure dans les universités où je hurlais parce que j'avais des gens qui étaient en chaise roulante et ils pouvaient même pas assister à la conférence que je donnais. Dans certains locaux, je tairai le nom parce que là, ça a l'air que c'est réparé, qu'ils ont fait le nécessaire. Mais je veux dire, ça c'est un exemple, OK? Commencer dans les universités, dans les cégeps, là, on parle d'adultes, là, ceux qui sont rendus à ces âges-là. Est-ce que c'est bien? Ou est-ce que c'est encore des batailles à n'en plus finir?
Je dirais que ça, c'est... Beaucoup amélioré, non seulement en termes d'accessibilité physique ou architecturale, mais par rapport aussi à des services.
Bon.
Parce que si on parle à des personnes qui ont des limitations, on peut parler des gens évidemment en fauteuil, mais d'autres types de limitations aussi qui
peuvent
avoir.
Il y en a beaucoup.
Bon, surdité, de la visuelle, mais aussi d'autres types de limitations, peut-être moins visibles, là, des troubles d'apprentissage, l'autisme, etc. Donc, il y a toutes sortes de gens maintenant qui vont collégial, universitaire, qui ont ce type de profil-là. Et c'était beaucoup de défis d'accueillir et de permettre à ces personnes-là de réussir leur scolarisation.
Mm-hmm.
On a vu depuis quelques années
une
amélioration en termes de services, en termes de soutien financier offert aux établissements pour permettre d'engager du personnel pour soutenir ces personnes-là au niveau des défis. C'est pas encore l'idéal, loin de là, mais avant ça, il n'y avait rien. Maintenant, il y a un peu de choses. Du côté de l'accessibilité, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits du côté des universités pour essayer d'être davantage accessible. Université, collège aussi, là. Disons que de ce côté-là, le portrait est plus favorable. Ou c'est peut-être plus difficile pour les personnes, c'est lorsqu'elles ont peu de bagages et souhaiteraient retourner finir un secondaire 5 au niveau adulte
c'est
ou
ça.
Aller vers la formation professionnelle. Là, disons qu'il y a encore énormément de travail à faire. C'est pas évident pour des personnes qu'elles aient accès architecturellement à des centres de formation, surtout à Montréal ou dans des villes où
donc, il y aurait du travail là.
Il y a encore
là,
beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Au niveau du secondaire, compléter ses études secondaires lorsqu'on est un adulte avec des limitations, c'est pas toujours facile en termes de soutien.
Donc,
parce
on tire la cloche d'alarme,
oui,
le système aujourd'hui, puis on a un message à passer, ça va être celui-là. Parce que le reste, ça s'améliore, ça
s'améliore
contente,
et on a d'ailleurs produit, il y a l'année dernière, un document, nous, si les gens sont intéressés à aller sur notre site, on verra tout le niveau de service qui est offert.
Oui, tenez-le. Monsieur Bouchard, c'est très, très important. S'il vous plaît, l'adresse pour qu'on aille visiter
oui,
tout ça.
Je laisserai, vous pourrez, j'imagine, trouver
oui.
ça sur votre site
alors,
web éventuellement.
Alors, parfait. Alors, on va laisser vos coordonnées pour le CAMO. C'est important aussi de savoir qui s'occupe bien de ces choses-là, autant architecturales qu'intellectuelles, parce que c'est important. Mais il y a quand même un pas de fait, amélioration au niveau des universités. Merci, Monsieur Bouchard.
Ça m'a fait plaisir. Merci.
Alors, nous sommes rendus à la section. Bien, quand on a, quand on est maman, quand on est papa, retourner aux études, c'est triple problème. Le travail, les enfants et les études, ça fait des horaires, mesdames, messieurs, incroyables. Je sais, je suis passée par là. Ouhou! À beaucoup de congelés pendant cette période-là, des petits repas congelés. Alors, on parle tout de suite à Paula Duguay, elle est présidente de Maman va à l'école. C'est un organisme qui aide les mères monoparentales qui désirent retourner aux études et c'est notre coup de chapeau. Paula Duguay, bonjour.
Bonjour.
Quand je disais que c'est beaucoup de repas congelés, tout d'organisation, c'est de l'organisation.
Oui, et surtout quand nous sommes des mères monoparentales.
Eh oui.
Et il faut doubler la tâche, doubler la fatigue, doubler le stress, doubler les problèmes financiers et tout, et tout, et tout.
Alors, quelles sont les raisons à ces mères-là de retourner au travail? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Pourquoi elles veulent retourner au travail?
Je vous dirais que la première motivation pour revenir à l'école, ce sont des motifs personnels, une grande fierté par rapport à elles-mêmes, mais d'abord de la part de leurs enfants.
Ah!
Et ça, ça traverse toutes les études.
Ah, c'est très intéressant.
C'est très intéressant. Ouais. Les mères qui, particulièrement nous, on travaille beaucoup pour les mères monoparentales, là, peu importe leur âge, mm-hmm. afin qu'elles puissent atteindre un premier diplôme. Et toutes les mères nous disent la fierté de leurs enfants quand ils voient leur mère retourner à l'école. La fierté de ces enfants-là quand maman peut aider pour les devoirs.
Vous allez me faire pleurer.
C'est
très, très touchant parce qu'effectivement, on n'y pense pas à cette dimension-là. Et c'est quelque chose, j'imagine, de ne pas être capable d'aider son enfant puis de se dire, ben là, je vais retourner aux études.
Oui.
Je vais être capable de faire les études avec mon enfant. Fierté.
C'est prioritaire au motif professionnel. Donc, l'estime de soi, on sait que pour la satisfaction personnelle, tout est là. Les mamans ont besoin d'une routine, d'une vie stable aussi. Mm-hmm. Donc, elles retournent à l'école très souvent avec le petit dernier là qui va entrer à la prématernelle à l'âge de 4 ans. Et les mamans, souvent, elles prennent cette décision-là à ce moment-là. On parle toujours des mamans monoparentales.
Oui, c'est ça. De toute façon, c'est votre organisme qui est...
Exactement.
C'est les mamans monoparentales. Dites-moi, quand elles viennent dans votre bureau, qu'est-ce qu'elles vous disent?
Bien, nous, on les rencontre...
Chez elles?
Peu. Mmh. On tente beaucoup d'innover au niveau d'un programme pour que les mamans qui sont à la maison puissent avoir accès à l'école.
Okay.
C'est une très grande difficulté de les rejoindre. On a beaucoup plus de facilité à aider les mamans qui sont déjà dans des institutions comme les formations générales aux adultes ou en formation professionnelle.
Mmh.
C'est beaucoup plus facile parce qu'elles sont déjà dans des groupes. Elles sont déjà supportées par des enseignants ou par des professionnels. Mais aller chercher les mamans qui sont très souvent démunies au niveau de l'information.
Mmh.
Donc, comment faire le lien entre la maman qui est à la maison, qui est débordée avec toute la multiplication de tâches ménagères, et comment lui expliquer, si vous voulez, comment on fait pour retourner à l'école de façon concrète? C'est là-dessus qu'on travaille actuellement.
Okay.
Donc, on est en train de construire, il y a un site que vous pouvez aller le voir, c'est Maman va à l'école, écrit d'un seul mot, .org.
Okay.
Et là, nous travaillons beaucoup pour faire en sorte que l'information circule bien.
Okay.
Donc, une maman pourrait aller sur le site, poser des questions, d'abord visualiser un peu, et puis nous, on se charge de revenir avec l'information.
Qu'est-ce qu'elles reprennent quand elles raccrochent ces moments-là?
Vous savez, très souvent, nous, d'abord, notre organisme, je tiens à vous dire, c'est pour aider les mamans qui n'ont pas un premier diplôme.
Okay.
Donc, on se consacre beaucoup à ce moment-ci sur les diplômes de niveau secondaire.
Donc, elles complètent leur secondaire 4 ou 5.
Elles complètent leur secondaire 3, 4, 5, ou encore elles prennent les préalables pour aller en formation professionnelle.
Mm-hmm.
Il faut vraiment comprendre que la formation professionnelle est une porte très importante pour des mères monoparentales parce qu'il y a l'accès à un diplôme qui est beaucoup plus... c'est proche.
Oui, c'est rapide.
Il y a une proximité, là.
Ouais, ouais.
Alors, quand on dit qu'on peut faire un diplôme, un DEP, dans différents domaines, avec 1350 heures de cours, ce qui veut dire un an et demi ou deux ans, bien, ça, c'est alléchant, là.
Mm-hmm.
C'est très alléchant. Donc, on travaille beaucoup à diffuser cette information-là. Puis, pour les mères qui sont à la maison, elles voient ça souvent comme une immense montagne.
Mm-hmm.
Elles n'ont pas toujours les moyens de sortir de leur maison. Mm-hmm. Donc, à travers Maman va à l'école, on explique aussi qu'il y a des garderies. Et d'ailleurs, dans notre mission, on a travaillé beaucoup à coordonner puis à faire la promotion de garderies qui seraient près des écoles, des éducations des adultes. Alors ça serait vraiment, pour elles d'ailleurs, c'est, quand on a fait nos enquêtes, elles nous le disent. Si je suis capable de déposer mon enfant près de mon école, bien, elle
aura ça va comme ça. Écoutez, le temps nous fait la guerre. On va mettre évidemment vos coordonnées. C'est très intéressant. Vous êtes notre coup de chapeau. Merci Paula Duguay. Merci.
Déjà.
Oui, déjà. Merci pour ce que vous faites pour les femmes, les mères qui retournent avec leurs enfants sur le marché du travail, surtout aux études. Merci infiniment.
Alors, au plaisir.
Au plaisir. Au revoir. Alors, à mon équipe, Jean-Sébastien Laliberté à la réalisation, choix musicaux, Yannick Roberge, Claudia Benoît qui était pour le web et Christiane Campagna et ma recherchiste. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bonne étude pour ceux qui retournent. À bientôt. Bye bye.